Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous aujourd'hui avec Jean-Luc Benabias. Bonjour Jean-Luc, membre de la Ligue
Salut,
des droits
bonjour,
de l'homme.
Bonjour à tout le monde.
Ancien
bonjour.
Membre du Conseil économique, social et environnemental. Gilles Gansman est resté avec nous en studio. Il va parce qu'on va parler de cette émission hier sur C8 qui a beaucoup fait réagir, qui a cartonné en audience, on peut le dire.
Oui, troisième chaîne nationale.
Et qui a
quelques téléspectateurs d'envoyé spécial. Donc ils ont failli être deuxième.
Ah oui, d'accord. Noémie Alioua, essayiste, journaliste pour E24 News.
Bonjour.
Mathieu Cheng, directeur associé chez BVA Nudge Unit.
Bonjour.
Et cofondateur de Daily d'Opinion. On va évidemment revenir sur cette émission politique spectacle. Est-ce que vous avez regardé? Qu'en avez-vous pensé? On va évoquer ensuite Marion Maréchal qui se dit prête à rejoindre Éric Zemmour. Et puis Emmanuel Macron qui appelle à la vigilance face à l'antisémitisme. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aborder tous ces thèmes, mais on commence comme tous les jours désormais par le zapping de la présidentielle.
Sud Radio, le zapping de la présidentielle.
Et oui, quelques sons, Valérie, qui vont illustrer les débats qui vont suivre. Pour commencer, Pierre Licia a hier dénoncé la décision de déplacer Déol dans une friche de la SNCF, les toxicomanes, et constate que le social est totalement inexistant dans cette campagne.
C'est absolument irresponsable. Vous imaginez que on va déplacer des toxicomanes, on va déplacer une scène ouverte de consommation de crack dans un quartier, le 12e arrondissement, où historiquement, il n'y a pas de problème de toxicomanie, il n'y a pas de crack dans ce quartier-là. Donc on va créer un problème dans un quartier de Paris où ce problème n'a jamais existé. On va prendre le risque d'enquister, de sédentariser le trafic, le deal, la consommation, la prostitution, les agressions, l'insalubrité, dans un quartier où il n'y avait pas de problème de ce type-là auparavant, à défaut de solutionner le problème, comme je le réclame, vous l'avez mentionné déjà depuis presque 4 ans.
Oui, puisque tout le monde va suivre, donc... Ouais. Évidemment, ce n'est pas que déplacer des toxicomanes. Viendra pas, on va en parler également dans vos débats, Valérie. La nièce de Marine Le Pen sera-t-elle la prochaine prise de guerre d'Éric Zemmour? Hier sur BFM, Gilbert Collard était très confiant et pense que oui.
Je suis persuadé que Marion rejoindra et Éric Zemmour. Si je l'ai rejoint, Éric, c'est en grande partie parce que, au-delà de l'amitié que j'ai pour lui, Marion m'a invité à des réunions où il était là, m'a invité à sa fameuse réunion des droites où Éric avait pris la parole. Marion a toujours été aux côtés de Zemmour. Bon, alors, quand on lit l'article du Parisien, il faut se livrer à une exégèse, bien sûr. Hein. Quand on connaît Marion et qu'on lit ce qu'a dit Marion, on comprend qu'il y a une envie d'y aller. Il y a une envie. Quand elle dit « la politique me titille », je réfléchis. Quand Marion réfléchit très longtemps, c'est qu'elle a pris sa décision.
Vous voulez qu'on écoute la réaction de Marine Le Pen? C'était ce matin chez nos confrères de CNews.
Et je pense que si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait. Voilà, donc j'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. Donc évidemment, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi.
Vous attendiez à cette décision?
Non, on s'y attend jamais vraiment. Si vous voulez, je trouve que d'abord c'est une incompréhension politique déjà, parce que elle avait indiqué qu'elle soutiendrait celui qui est le mieux placé. Bon, incontestablement, je suis beaucoup mieux placé aujourd'hui qu'Éric Zemmour, parce que je suis donné au second tour et je crois, compte tenu des sondages de second tour, en capacité de gagner face à Emmanuel Macron. Donc ça, c'est déjà incompréhensible. Mais à côté de l'aspect politique, il y a effectivement l'aspect personnel. Bon.
On la sent très émue.
De pleurer, très mais,
non, non, mais
c'est
mais
incroyable
on sent
comment
qu'il y a des émotions,
la...
oui,
mais c'est incroyable comment Zemmour la rend humaine.
En fait, c'est un choix, tactique, stratégique. Quand on est candidat à la présidentielle, elle sait très bien qu'elle a plutôt intérêt à positionner ce débat sur le champ personnel que sur le champ politique. Sur le champ politique, c'est une déflagration. Ce serait une déflagration si Marion Maréchal va chez Zemmour, on en reparlera après. Donc elle a tout intérêt à se positionner comme une femme blessée, en rappelant le rapport personnel qui existe entre elle et Marion. Effectivement, je crois qu'elle a en partie éduqué. Donc ici, c'est l'histoire de la trahison de l'enfant vers son père, enfin sa mère. Ouais.
Et peut-être que c'est vrai aussi, à force de la diaboliser, on a l'impression que c'est plus une femme, que c'est plus un être humain, on en fait souvent un monstre, comme si elle n'était pas aussi capable d'être blessée. Il me semble que là, c'est vraiment la voix de quelqu'un qui ressent la douleur d'une trahison, et on peut la combattre politiquement, et lui reconnaître aussi parfois une forme d'honnêteté. Et c'est quelqu'un qui a été trahi presque toute sa vie politique.
C'est une stratégie politique. Déjà, on s'en souvient dans Confession intime, Marine Le Pen cherchait à fendre l'armure et à révéler sa féminité, à révéler la vie privée, à révéler également les failles, du coup, pour créer plus de proximité. Rien n'est gratuit dans une campagne politique. Non. Ici, le choix qui a été fait vise à l'humaniser malgré la déflagration politique potentielle.
Je ne me rappelle plus le nom de l'émission sur M6, mais ce n'est pas Confession Intime. Confession Intime, c'est sur TF1, c'est quand vous avez... vous êtes
Ambition
Intime.
Ambition
Intime. Confession, c'est quand vous aimez Johnny Hallyday.
On aura l'occasion d'en reparler.
Avec Ariel Demarchand, exactement. Avec Ariel Demarchand, exactement.
Vous aimez le tuning.
Voilà, exactement.
Il vous reste un dernier son.
Évidemment, vous allez revenir, Valérie, sur le débat Zemmour et Mélenchon. Mais du coup, moi, j'ai voulu vous amener un autre son, celui où il était à la manif, puisque je dis, il y a eu des manifs, avec beaucoup de manifestants qui ont crié, beaucoup de monde ont crié contre la police en disant qu'on n'aime pas la police. Et ben, ils étaient encouragés par qui ? Par Jean-Luc Mélenchon.
Ben, y a beaucoup de monde qui déteste la police, c'est le temps de s'en rendre compte. Hein. C'est un problème d'ailleurs.
Ouais. Donc voilà, et on a vu que durant le débat...
Vous avez pas repris les extraits hier qui étaient particulièrement violents face à un syndicaliste policier. On va y revenir dans un tout petit instant. On marque une pause et on se retrouve avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Vous êtes nombreux à vouloir réagir sur cette émission hier soir diffusée par C8 face à Baba, où on a vu un combat, hein, ce que vous évoquiez tout à l'heure, presque un combat de MMA, MMA où tous les coups étaient permis. On a entendu Jean-Luc Mélenchon traité de chien Éric Zemmour. C'était quand même assez pitoyable ce qu'on a pu voir hier. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous, on commente l'actualité avec Jean-Luc Benamias, membre du Conseil, vous étiez membre du Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes membre de la Ligue des droits de l'homme. Gilles Ganzmann est avec nous, journaliste, vous le connaissez bien si vous écoutez Sud Radio. Noémie Alioua, essayiste et journaliste pour I24 News. Mathieu Scheng, directeur associé chez BVA Nudge Unit et cofondateur du site Délit d'opinion. On va revenir sur ce débat hier sur C8, sur cette émission Face à Baba. Déjà, le titre en lui-même était tout un programme. Mélenchon face à Zemmour. Ça devait durer 20 minutes, ça a duré près d'une heure et demie. 1h20.
Face à face.
Une émission... où il y a eu beaucoup d'insultes. Ça a rassemblé près de 2 millions
presque
de téléspectateurs.
De c'est arrivé presque au touche-à-touche avec Envoyé spécial, troisième chaîne nationale. Et surtout, ils ont atteint les cibles des ménagères et les cibles des jeunes, ce qu'LCI a essayé de faire hier. Là, ils ont touché les jeunes. Ils ont une part de marché assez importante sur les 13-22 ans.
Marion Maréchal qui dit qu'elle ne soutiendra pas Marine Le Pen, et Emmanuel Macron qui appelle à la vigilance face à l'antisémitisme. Commençons peut-être quand même avec d'autres sujets qui ont retenu votre attention mais qui restent assez politiques. Jean-Luc Benamias, un coup de cœur ?
Oui, c'est un coup de cœur, mais bon, je ne vous parlerai pas de la grève des poubelles.
Oui, ça en est où ?
Mais ça continue, donc voilà, c'est la saga continue.
La saga,
c'est un peu comme la saga de la famille Le Pen. Bon, ok, non, je vous parlais, c'est un coup de cœur pour les élus qui osent signer pour les candidats et candidates aux présidentielles. On met une pression incroyable d'enfer par rapport à ce sujet qui ne me paraît pas si difficile que ça. C'est une question, même pas de courage, c'est une question de participer à la vie démocratique. Il a été décidé il y a quelques années qu'il fallait 500 signatures. Très bien, voilà, c'est le jeu démocratique. Voilà, je veux désacraliser cette affaire, voilà. Et donc, ceux qui signent, je trouve qu'ils jouent leur rôle. Alors, il y a d'autres méthodes, certains en proposent, 150 000 signataires qui soutiendraient tel ou tel candidat, mais aujourd'hui, c'est les maires qui décident et c'est les grands élus qui décident. Voilà, je trouve ça... Donc, ceux qui le font, je trouve qu'ils participent à la vie démocratique.
Oui, bah écoutez, on va voir ce que ça donnera, mais enfin, on l'a dit, redit ici, c'est les pressions que subissent ces élus par la suite. Une fois qu'ils ont donné leur signature, ils subissent des représailles sur des budgets, sur des choses comme ça, là, c'est même pas de leurs administrés.
L'histoire a montré que depuis que cette loi existe des 500 signatures, je n'ai pas vu après coup de très nombreux élus subir après des conditions
Bah, vous n'en savez rien. Bah, enfin, pour en avoir discuté avec Laurent Jacobelli, qui lui fait le recueil des parrainages pour Marine Le Pen, il nous a raconté que c'était extrêmement difficile. Gens qui avaient soutenu Marine Le Pen, qui ne le faisaient pas cette fois-ci, parce qu'ils ont eu de la part des conseils généraux, des subventions qui ne sont pas tombées.
J'entends tout cela, mais je pense que, justement, c'est pour ça que je félicite ceux qui le font.
D'accord. Le problème, c'est que c'était pas les 500 signatures. Le problème, c'est la levée de l'anonymat. Et c'est ce qui fait qu'il peut y avoir des pressions sur des maires et qu'ils sont pas aussi libres que ce qu'ils voudraient l'être.
Mais coup de cœur, coup de cœur.
Et pourtant, des milliers de personnes le font.
Gilles, vous, c'est un coup de gueule ?
Coup de gueule et coup de cœur, c'est un peu compliqué. Hier, Moderna a annoncé les essais humains sur du vaccin contre le VIH utilisant l'ARN messager. Je voulais juste rappeler que le sida, c'est 4 décennies de recherche. Mmh. C'est juste 37 millions actuellement de personnes qui sont séropositives en 2020. C'est plus de 50 millions de morts. Et donc, il aura fallu le Covid pour que la recherche se mette en place et se mette enfin à tester un vaccin. Donc Moderna va faire une première phase sur 56 adultes. Alors peut-être maintenant on est prêt à accepter l'ARN, même si le virus du sida agit plus à l'intérieur de la cellule que le SARS-CoV. Mais donc on a eu des résultats prometteurs sur les animaux. Je trouve ça juste dommage qu'il a fallu une pandémie pour qu'on sorte un vaccin sur le VIH. Oui,
c'est le temps de la recherche.
Pas 40 ans. Là, vous avez vu, découvert en 1983. Maintenant ils y vont parce qu'ils ont l'ARN et que les fonds arrivent et que c'est surtout des histoires de bourse. C'est que maintenant, les gens sont prêts à financer l'ARN vu les résultats. Mais sans le Covid, ils n'auraient pas financé l'ARN et donc pas essayé de trouver un vaccin contre le sida. Donc, c'est un coup de cœur et un coup de gueule. Une pandémie pour le sida, c'est dommage qu'il ait fallu ça.
Noémie, un coup de gueule ?
Oui, un petit coup de gueule. Vous savez, hier, c'était un jour un petit peu important. C'était le 77e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz. Et il y avait des commémorations qui ont été organisées un petit peu partout, notamment d'ailleurs hier soir sous l'Arc de Triomphe. Il y a eu différentes commémorations un petit peu partout, et notamment au mémorial de la Shoah. Moi, j'ai découvert un certain nombre d'entre elles. Et on a vu encore des politiques aller au mémorial de la Shoah pour, dans cette période de campagne présidentielle, pour montrer qu'ils étaient bien là et lancer leur petit tacle à Éric Zemmour notamment. Et donc il y a eu Anne Hidalgo, ensuite il y a eu Valérie Pécresse, et on en arrive toujours un petit peu à ce moment extrêmement dérangeant, il me semble, d'une instrumentalisation politique de sujets terribles comme la Shoah. Ça avait été le cas aussi un peu avec le Bataclan, on se souvient. Je pense qu'il devrait y avoir des lignes rouges, des moments, des choses dans l'histoire qu'on respecte coûte que coûte, y compris dans cette période de campagne, qu'on ne devrait pas toucher et qu'on ne devrait pas instrumentaliser à des fins politiques. C'est un petit coup de gueule, en ce qui me concerne.
Oui, Mathieu Cheng.
Oui, non, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, la non-instrumentalisation, elle nous concerne tous. C'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'on explique aux gens que le pass vaccinal que ont. Certaines minorités expliquent que le pass vaccinal, c'est une forme d'étoile jaune. D'autres qui expliquent que nous vivons dans un régime totalitaire. D'autres qui font le parallèle avec les chambres à gaz. Je pense qu'on devrait faire attention à ne pas atteindre ce point Godwin de manière systématique et de ne pas comparer 6 millions de morts avec ce que nous avons aujourd'hui, qui n'a strictement rien à voir. Et donc ce devoir de ne pas instrumentaliser le passé, il est du côté des politiques, de tous les politiques. C'est-à-dire que on ne joue pas avec l'histoire. Je pense que par rapport à ce qui a été dit sur Zemmour, la thèse, on ne va pas y revenir, mais la thèse du bouclier et du glaive qui consiste à voir en Pétain un protecteur des Juifs est dénoncée par la totalité des historiens. C'est une défense de Pétain au moment de son procès, mais qui n'a jamais été validée nulle part. Et donc, c'est dommage que des politiques du premier plan oublient ce qui s'est passé en octobre 1940. Je rappelle que 4 octobre 1940, les préfets ont le droit d'interner des Juifs étrangers. En octobre 1940, de la même manière, on ne va pas refaire l'histoire, mais en octobre 1940 aussi, il y a la remise en cause du décret Crémieux, c'est-à-dire qu'on enlève la citoyenneté à des Juifs, notamment en Algérie. C'est une histoire, ce sont des faits qui ont existé, donc on n'instrumentalise pas, on connaît l'histoire, on la travaille, l'histoire.
Des deux côtés. Jean-Luc ?
Enfin, il semblerait quand même que ce soit un candidat qui instrumentalise. C'est pas l'ensemble de la classe politique qui instrumentalise.
Si. Allant au mémorial de la Shoah et en profitant pour faire de la politique, on instrumentalise aussi l'histoire.
Non, mais on pouvait pas empêcher les candidats au présidentiel d'exprimer, quand on leur pose la question, de savoir par rapport à ce qu'ils pensent de l'instrumentalisation. Moi, je pense par rapport à ça qu'on n'a pas fini ces commémorations, et heureusement, parce que ce rappel est absolument essentiel. Hein, la libération des camps, chacun le sait, c'est extrêmement lent. Il y a des camps qui sont libérés, mais quasiment à la fin de la guerre de 39-45. À ce niveau-là, moi, je pense que c'est essentiel de rappeler cet exercice de mémoire essentiel. Mais après, quand il y a une instrumentalisation par un candidat parmi d'autres, je ne vois pas comment les autres politiques ne pourraient pas dénoncer ça.
Bien sûr, donc quand c'est Éric Zemmour, c'est de l'instrumentalisation, mais quand c'est les autres qui attaquent Zemmour, ce n'est pas de l'instrumentalisation.
Non, mais pardon, mais ça n'a rien à voir.
On en arrive exactement au point problématique. Ça n'a rien à voir. Ça reste un débat politique, je suis désolée, et le fait de s'attaquer à Éric Zemmour là-dessus, dans cette période-là, à ce moment-là, sur un lieu pareil, c'est quelque chose de politique.
Juste un point pour finir. Le fait que des politiques se souviennent de la Shoah, c'est un devoir. Oui. Le fait que chacun des candidats à la présidentielle se souvienne de la Shoah, commémore la Shoah, c'est un devoir. Le fait que certains réécrivent l'histoire, l'histoire, il y a des faits. Voilà, on ne réécrit pas l'histoire. On n'explique pas que le régime de Vichy a protégé les Juifs. Il y a des Français qui ont protégé les Juifs. Le régime n'a pas protégé les Juifs. Non. Il a fait de la collaboration avant même Montoire. Voilà. Donc l'histoire, on la connaît, on rentre dans les détails, mais l'instrumentalisation de ce débat-là, il n'est pas parmi tous les candidats, je suis désolé.
Alors, moi, avant de vous donner la parole, Mathieu, pour votre coup de gueule, je voudrais faire un point woke, un point politiquement correct, avec Disney qui a décidé de supprimer les nains dans le remake de Blanche-Neige et de le remplacer par des créatures fantastiques, parce qu'il faut faire évoluer les mentalités. C'est ce qu'a dit l'acteur de Game of Thrones, Peter Dinklage. Donc, il a poussé un coup de gueule contre Disney, qui a répondu « oui, bien sûr ». On va supprimer les nains. Et alors hier, on a appris que Minnie ne serait plus en robe pour le 30e anniversaire de Disney. Disney a demandé à Stella McCartney de lui faire un costume pour célébrer cet anniversaire pour le parc Disney. Elle va être en pantalon bleu marine. Voilà, parce que la robe, c'est féminin. Oui, Mathieu.
Alors, c'est un exemple totalement personnel.
Ouais.
Moi, j'ai expliqué, j'ai une petite fille qui a 4 ans. Je lui lisais Blanche-Neige et elle voulait savoir ce que c'était qu'un nain. Et je lui expliquais qu'effectivement, il y avait des gens qui avaient une taille qui était plus petite et qu'il n'y avait pas de normes dans la matière et que ces gens-là appartenaient à notre même communauté humaine. Donc Disney a finalement une décision qui va à l'inverse parce qu'elle invisibilise. De montrer des 7 nains, ça montre qu'en fait, on n'est pas tous de la même couleur de peau, qu'on n'a pas tous la même taille, mais qu'on appartient tous à la même communauté humaine. Ouais. À force d'être dans le politiquement correct, on empêche des gens, finalement, d'appartenir à cette communauté et on empêche le travail de pédagogie que nous faisons en tant que parents.
Oui, et puis on parle de dessin animé.
Oui, et puis c'est un phénomène, c'est une lame de fond, hein, puisque désormais, si vous regardez un Disney sur Netflix, vous avez une petite annonce, entre autres devant les Aristochats, puisqu'il y a ce chat asiatique qui fait de la musique avec des baguettes. Et donc, dans certains pays, il n'y a plus cet extrait-là. Et la même chose de Peter Pan, parce qu'il rencontre les Indiens. Et là aussi, évidemment, les Indiens se sont révoltés contre cet extrait de Peter Pan. Donc, on arrive à effacer ce qui, nous a éduqués aussi dans notre enfance. Moi, je pense que...
Bien sûr, ce que disait Mathieu. Ouais.
Voilà, en regardant, j'ai pas une haine des nains, parce que j'ai regardé Blanche-Neige chez les 7 nains, et je ne déteste pas les Indiens parce que j'ai regardé Peter Pan. Je pense que c'est juste de la politique.
Oui, un mot peut-être, Jean-Luc ?
On n'efface rien, tout continue à exister, ces films existent et donc ils continueront à exister. Ouais. Donc voilà, bon, c'est des histoires de période, tout ça sera, c'est un balancier, tout ça changera, tout ça se remettra d'aplomb.
Je pense qu'aux États-Unis il y a des mouvements de fond assez importants.
Oui, mais les films disparaissent pas, Valérie. Les films sont là.
Ils sont remplacés par des nouveaux. C'est-à-dire que Disney va remplacer.
Oui, mais les anciens restent.
Mais les enfants actuels ne verront que ce Disney-là. C'est ça qui est grave. Mais bien sûr que si.
Alors Mathieu, c'est un coup de gueule.
Alors c'est un coup de gueule sur cette non-campagne avec des conséquences que l'on constate aujourd'hui. On a sorti un rapport BVA qui montre que l'intérêt pour la campagne présidentielle est en train de baisser. il perd encore deux points dans le baromètre BVA, que l'intention d'aller voter est en train de baisser, alors que ça devrait être le contraire. Plus on se rapproche de l'échéance, plus il devrait y avoir un intérêt pour la campagne, plus il devrait y avoir l'envie de la part des citoyens d'aller voter. C'est le contraire. On paye cash des mois de petites phrases, la petite phrase « j'emmerde les Français », la petite phrase sur la question et le clash entre Zemmour et Mélenchon. La conséquence, c'est qu'il va y avoir un président ou une présidente qui sera mal élu et il y a des questions qui ne sont pas résolues. On regardait encore un baromètre d'un concurrent, pas BVA mais Ipsos, qui montrait que la question du pouvoir d'achat, elle s'était imposée aujourd'hui en tête des priorités des Français. Quelles sont les réponses structurantes qui sont apportées par rapport aux dépenses contraintes, par rapport à la question de l'immobilier? La question de l'immobilier, elle est fondamentale pour des Français qui s'endettent toujours davantage. L'immobilier qui représente 20% aujourd'hui des dépenses des Français, qui étrangle de nombreux Français. Et pour ça, par rapport à ces questions-là vitales qui intéressent les Français, il n'y a aucune réponse. Ouais. Je pense pour finir qu'il y a une responsabilité collective. On est tous responsables. Les politiques sont responsables, probablement pour ne pas assez pousser des sujets qui sont des sujets centraux et pour ne pas suffisamment travailler sur la santé de demain, sur la dépendance de demain, sur le pouvoir d'achat. Nous, en tant que citoyens, on est responsables aussi parce qu'il y a une paresse collective.
Bien sûr.
Parce que oui, on ne va pas forcément tous voir dans les détails des programmes qui existent, qui sont disponibles sur les plateformes. On n'y va pas suffisamment parce que c'est exigeant.
C'est exigeant.
Et nous, les médias aussi, enfin les médias, nous avons une part de responsabilité. Peut-être qu'on devrait moins se focaliser sur les petites phrases et peut-être qu'on devrait montrer aussi les parts.
Je ne suis pas d'accord avec vous, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas des gens. C'est parce qu'en face, on n'a pas des gens intéressants. Avant, on avait des gens intéressants. Quand il y avait un débat entre Mitterrand et un débat entre Chirac, il y avait des choses intéressantes qui étaient dites. Il y avait des propositions. Les hommes politiques, avant, lorsque vous regardez les Kennedy autour ou autre ça, il y avait une espérance. On donnait un espoir aux Français en disant on montera sur la Lune, on ira faire ça, on va construire la grande pyramide. On avait des grands projets pour la France. Moi, il n'y a aucun des hommes politiques qui ont des grands projets pour la France. Moi, je n'ai pas d'espoir. Il n'y en a aucun qui me donne espoir dans la France. Qu'est-ce qu'elle va être dans 5 ans ou dans 10 ans? Donc, oui, peut-être on est feignant, mais il y a surtout ces hommes politiques qui ne donnent pas envie de voter pour eux et qui ne donnent pas espoir. Et quand vous donnez plus d'espoir au peuple...
Peut-être qu'on ne les écoute pas non plus.
Alors, je rejoins sur... Je trouve qu'il y a un point sur lequel je ne rejoins pas totalement ce que dit Gilles, qui est... Il y a des propositions qui peuvent être faites par des candidats mais qui ne passent pas le mur du son. Vous regardez sur les primaires à droite, on s'est focalisé sur deux sujets, l'immigration et la sécurité. Je caricature à peine. Il n'y a pas eu d'autres débats, il n'y a pas eu les questions sur la santé, alors qu'il y avait des programmes. En revanche, je suis d'accord avec vous, c'est qu'on a perdu l'idéologie. L'idéologie, ce n'est pas un gros mot, c'est comment on transforme la société. Il y a une France qui est désabusée, des citoyens qui sont désabusés, qui ne croient plus les promesses, mais qui en même temps en ont terriblement besoin. Il faut qu'on ait une nouvelle promesse d'une nouvelle France qui soit crédible, probablement, mais qui soit aussi capable de faire rêver.
Ça, je vais transformer votre vie.
Et je vous rejoins sur ce point-là, on n'a pas ça.
Allez, on va marquer une pause et on va s'attaquer au débat d'hier soir avec beaucoup de réactions très négatives, mais avec une audience très haute. Carton. Donc, ce paradoxe, les gens sont restés, les gens ont regardé l'émission Face à Baba hier soir. On en parle dans un instant.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Hier soir, donc, sur CNews, Face à Baba, l'émission politique de, C8, de C8.
C'est
les frères jumeaux. Jean-Luc Mélenchon était l'invité et donc des personnalités, des intervenants devaient lui poser des questions. Éric Zemmour devait intervenir pendant 25 minutes, il est resté 1h20. Ça a cartonné, ça a marché. Moi, j'ai eu beaucoup de réactions très négatives. Sacha nous dit une auditrice, je ne sais pas, Sacha. J'ai regardé le débat jusqu'à la fin. Monsieur Mélenchon était en dessous de tout, agressif, excité, instable, injurieux, dictateur, vous obéirez. Bref, hors de lui, ce n'est pas ce que j'attends d'un candidat à la présidence de la République. Finalement, ce genre de mission met en avant la vraie personnalité des candidats et ce n'est peut-être pas si mal. D'autres auditeurs nous disent c'est un jeu, ils se connaissent. Politique spectacle, vous en avez pensé quoi? Peut-être Jean-Luc Benamias, vous avez regardé ou pas?
Non, je n'ai pas regardé.
Vous avez regardé des extraits?
Non, même pas.
Parce que ce
jeu, moi je veux bien que Gilles a dit tout à l'heure, ça fait un tabac chez les 13-18 ans, c'est ça? Ou les 13-23 ans?
Les 18-24, oui. Vraiment
sur les ados. Tu avais dit 13 ans, excuse-moi.
Les ados aussi.
J'avais regardé le premier débat en entier, j'en regarde très peu en entier, il m'avait paru intéressant. Là, ce jeu, pour moi, est destructeur. Destructeur de la pensée politique, destructeur d'une vision quand même positive d'une élection présidentielle. Voilà. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, ça m'intéresse. À ce niveau-là de débat, ça ne m'intéresse plus. Voilà.
Ouais. Il faut savoir deux choses aussi, c'est que Cyril Hanouna a un système sur son portable où il voit presque les audiences en temps réel. C'est un peu la technologie.
Les audiences ou les box.
Il voit les box et donc quand il voit que les box montent, eh ben il a fait durer le débat. Et ça c'est très dangereux pour la nouvelle télé. Qui font comment?
C'est ce que je pense.
Ça devient très dangereux de faire la télé en fonction de l'audience, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à faire une émission sur laquelle il y a du contenu, on n'essaye plus à faire que ça soit bien, on essaye à faire que ça marche. Et ce n'est pas la même chose de faire une émission qui marche et une émission qui est bien. Et l'autre chose, Valérie, dans cette émission, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on a eu le même débat sur BFM, où en effet, c'était Éric Zemmour
face à
Jean-Luc Mélenchon. Et là, pour le coup, c'était Maxime Switek qui menait les débats et ça s'appelait Face à BFM, donc presque un titre similaire. Et bien là, le débat était tenu, il y avait de la courtoisie entre eux. Et alors, peut-être le fait qu'ils soient dans une atmosphère ou dans un endroit différent, ça a changé.
Avec des applaudissements, il y avait une claque.
Ça m'a beaucoup choqué.
Il y avait une claque réelle.
Il est venu avec ses soutiens, Jean-Luc Mélenchon, et à chaque phrase, il y avait des applaudissements. À chaque phrase de Zemmour, ça huait, et donc évidemment, ça change.
Sacha nous dit, ce n'est pas Hanouna qui leur dit comment se comporter. Non, ce n'est pas Hanouna qui leur dit comment se comporter.
Mais ils sont dans un cadre d'une émission de divertissement. Franchement, moi, j'ai regardé une partie de ce débat. J'ai été abasourdie vraiment par la médiocrité de cette confrontation. Alors même qu'effectivement, face à BFM, c'était quand même d'un autre niveau. Il y avait des arguments, il y avait du contenu, il y avait une confrontation qui était réelle sur des idées. Là, on avait vraiment deux hommes qui étaient en train de s'amuser.
Est-ce qu'ils s'amusaient ou faisaient de la politique? Est-ce qu'ils ont fait un spectacle?
En tout cas, c'était vraiment un spectacle. Et je pense que non, le titre, par contre, le titre joue aussi. C'est-à-dire que face à BFM, on est face à une chaîne. C'est sérieux. Il y a une rédaction, effectivement. Face à Baba, on sait que voilà, c'est plutôt.
C'est ce que dit Laurence, une auditrice déjà. Rien qu'avec le titre, on sait où on est.
On est dans une émission de divertissement. On le sait dès le départ. Et donc, ça abaisse le niveau. Et deux personnalités qu'on avait vues, effectivement, chez BFM, les deux mêmes personnes, elles ont fait un débat, mais de piètre qualité hier soir.
Mais est-ce qu'ils ont fait le show? Est-ce qu'ils étaient là pour faire le show? Quand on voit les échanges qu'il y a pu y avoir, ça relevait de ça.
Alors moi, j'avais vu de façon dans l'intégralité du débat sur BFM que j'avais trouvé de très bonne facture. Hier, j'ai regardé en partie, j'ai revu des extraits. Je pense qu'effectivement, ils ont été conditionnés. Parce que on est dans le registre du clash, et je pense qu'on est exactement dans la transposition de ce qu'on peut voir sur Twitter, c'est-à-dire des gens qui s'invectivent, c'est-à-dire il faut gagner la bataille du like, en l'occurrence de la claque où il faut que ça applaudisse. Et je pense que, je dis pas que ça marque un tournant, mais on est dans une transposition exacte de ce qui peut se produire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Probablement aussi pour ça qu'il y a eu un tel succès auprès d'une audience plutôt jeune, parce qu'on a les mêmes codes, parce qu'on a la volonté de mettre à terre l'autre, parce qu'on utilise des arguments qui sont quelquefois ras des pâquerettes mais qui permettent d'avoir du like. Et donc, pour la première fois, on a eu ce que donne un débat réseaux sociaux, made in télé, made in Hanouna. Je ne sais pas qui y gagne, je ne suis pas sûr que la démocratie y gagne. Juste une toute petite nuance, si ça a pu permettre certains citoyens plus jeunes de s'intéresser ne serait-ce même que tout petit peu à la campagne présidentielle, c'est ça de gagner. Ensuite, je pense que les politiques eux-mêmes peuvent y perdre, parce que derrière, on casse une forme de présidentialité. Est-ce qu'on imagine Zemmour davantage président demain ou Mélenchon davantage président demain? J'en doute. Souvenons-nous quand même qu'ils ont un défaut de présidentialité tous les deux. Zemmour parce qu'il est jugé trop extrême et parce qu'il est monothématique. Mélenchon parce qu'on le soupçonne de perdre son sang-froid. Et donc je pense que tous les deux, en s'adonnant à ce jeu télévisuel du clash, ils ont perdu encore un peu plus de présidentialité.
Ouais, peut-être qu'on peut réécouter un extrait du zapping, je dis à notre réalisateur, où cet échange où Jean-Luc Mélenchon traite Éric Zemmour de chien.
Si le délit de clandestinité existe toujours, figurez-vous. Si, s'il n'est pas... Non, arrêtez.
Mais les gens vérifieront sur Internet, vous allez perdre d'avance.
Bon, Dans ce pays, il reste des visas, il reste des frontières. Et personne n'a dit qu'elle n'existait plus.
Pas du tout, il n'y a plus de frontières. Bon, sur la frontière et les frontières européennes.
Allez, d'accord.
Il y a Schengen aussi. Et vous ne parlez pas comme ça.
Eh ben, je parle comme je veux.
Vous ne parlez pas comme ça.
Alors, vous arrêtez de me
montrer. OK, Mélenchon.
Écoutez, ça suffit. Oui, mais c'est vous, ça suffit de parler des gens comme ça.
Vous ne dites pas
que vous n'êtes pas content, vous pouvez partir.
C'est pas vous qui faites le patron.
Ça suffit, Mélenchon.
Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, on reste pour toi. Vous êtes un aboyeur, Mélenchon.
Ouais. Oui.
Non, mais vous donnez les clés du code nucléaire à une de ces deux personnes-là, moi, c'est effrayant.
Ouais. Jean-Luc.
Voilà pourquoi j'ai pas regardé. Je veux dire, c'est abominable.
La question que je me pose, c'est est-ce que ceux qui votaient Mélenchon sont toujours convaincus ou auront pu changer d'avis et inversement, est-ce qu'il a pu convaincre des gens? Alors, on doit marquer une pause, c'est l'heure de la pub, mais voilà, je vous laisse cette question. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, nous revenons sur l'émission hier diffusée par C8, Face à Baba. Est-ce qu'on est rentré dans l'ère de la politique spectacle, ce qu'évoquait très bien Mathieu Schenk tout à l'heure, c'est-à-dire les réseaux sociaux à la télévision, cette violence qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux qui, pour quand même la première fois, s'exprime de façon aussi claire. La question, c'est qui va gagner quoi dans tout ça?
Vous avez exactement la reproduction totale de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est du clash entre des gens, et derrière, il y a un système de like, et là, c'est la claque avec les deux fan clubs qui applaudissent à tout rompre, chacun leur camp.
Juste pour les infos, pour Jean-Luc Benamias, les vrais chiffres, j'ai été chercher le communiqué, 17,4% de part de marché sur les 15-34 ans, 17%, c'est énorme, ils sont la deuxième chaîne nationale regardée par les jeunes, et sur l'autre cible, ce qu'on appelle les adultes, on va dire, 14,5 de part de marché sur les 25-49. C'est aussi beaucoup à cette heure-là, surtout sur une durée aussi importante. Deuxième chaîne nationale et première chaîne TNT, évidemment.
Oui.
J'ai un souvenir. Mmh. Rappelez-vous le débat entre
Le Pen Tapie,
Duhamel et El Kabbach et Georges Marchais.
Ouais.
C'était en 81. Et ça repasse souvent en podcast, c'était assez vif aussi. Hein. C'était pas non plus terriblement d'un très haut niveau. Hein.
Ouais, Gilles.
Ouais. Oui, non, moi ce qui m'étonne, c'est justement le fait que eux se prennent à ce jeu-là. C'est-à-dire que, OK, on peut dire on est chez Baba, il y a de la castagne, c'est les réseaux sociaux, des applaudissements, mais on a deux hommes qui se présentent à l'élection présidentielle et qui jouent à ce jeu-là. Et la question qui a souvent été posée par Valérie et par d'autres débatteurs, est-ce que les autres, parce que c'est ça la vraie question quand on a vu ça, est-ce que les autres doivent y aller? Est-ce que Marine Le Pen doit y aller? Non. Est-ce que Valérie Pécresse doit y aller? Parce qu'il y a un contexte, mais ils le font. C'est eux, on ne les a pas poussés.
Ouais. Bah, Noémie, oui, doit y aller ou pas? Alors, je ne sais pas s'il doit y aller, mais en tout cas, c'est la même question qui se pose ici et qui se pose souvent quand on fait des émissions, même en tant que journaliste. C'est en fait la question vraiment de l'audience. Est-ce que c'est l'audience qui doit commander le contenu d'une émission ou est-ce qu'on doit vraiment proposer de la qualité pour un petit peu tirer tout ça vers le haut parce qu'on considère qu'on est aussi responsable de tout ce qui est en train de s'organiser.
Oui, mais regardez, quand France 2 fait pas d'audience, on dit « Oh, bah, il n'a pas attiré, ça n'a pas marché. »
C'est compliqué. C'est une question qui se pose à chaque fois, mais là, en l'occurrence, on a vraiment l'exemple typique d'une émission qui cartonne au niveau des audiences et qui, en qualité, est médiocre.
Oui, qui cartonne parce que Jean-Luc Mélenchon, parce que Éric Zemmour. Si on a Anne Hidalgo la semaine prochaine face à Baba, je ne suis pas sûre qu'elle fera le même ni Valérie Pécresse, qu'elle fera ça, parce qu'il y a le show derrière. Mathieu.
Alors, deux nuances à apporter. Un, audience ne fait pas adhésion.
Non.
Ça veut dire globalement qu'on peut avoir de très belles audiences, mais que c'est eu un impact négatif sur la perception des candidats. C'est possible qu'hier, ce se soit produit.
Oui.
Ça, c'est le premier élément.
Question, ouais.
Et le deuxième élément, c'est que je ne sais pas si on gagne à se mettre au niveau prétendu des Français. D'une certaine manière, Mélenchon et Zemmour se sont dit que pour plaire à cette catégorie-là, il fallait faire du clash. C'est assez inélégant par rapport aux Français, c'est de penser que les Français ne sont finalement capables d'écouter que du clash. Et deuxième élément, c'est oublier qu'on vote pour un homme politique qui nous élève. Ouais. On vote aussi pour un homme politique qui nous élève, qui nous rend plus fort, qui nous rend plus intelligent, qui parle de façon digne. Et donc, cet discours qui rabaisse les Français, parce que en parlant comme ça, on rabaisse les Français, je ne suis pas sûr que ça fasse gagner beaucoup de voix.
Moi, je pense que Zemmour a gagné dans l'histoire, parce que Zemmour, on sait qu'il peut dire des choses horribles et il n'hésite plus à les dire et ça choque plus personne. Mais jusqu'ici, Mélenchon avait fait oublier sa fameuse phrase « La République, c'est moi ». Et cette image-là qui avait été terrible et qui a fait un peu hésiter à se représenter, il avait réussi depuis un mois à faire oublier cette image-là, cette formule-là. Et là, je trouve qu'hier, il a tout gâché en revenant au personnage.
Chassé le naturel, il revient au galop. Quoi. Ouais. On sentait effectivement qu'il a...
Et ça va jouer.
Et par ailleurs, c'est ça qui est incroyable et schizophrénique, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est un super orateur. Indépendamment de ce qu'on pense, le discours qu'il a fait immersif était exceptionnel. On l'écoute, on en pense ce qu'on veut, mais il nous élève quand il parle.
Il avait gagné des galons intelligents, cultivés.
Bien sûr. Et là, hier, il était dans la haine. Hein. Ouais. C'est ce qu'on a pu percevoir sur les policiers, sur un certain nombre de, sujets. Jean-Luc ?
Moi, je crois qu'il ne faut pas surestimer ce genre d'émission. Sérieusement, hein, je comprends pas très bien pourquoi Jean-Luc Mélenchon se met à faire ce genre de truc, sauf sur l'idée que le public qui regarde ce genre d'émission et qui regarde Hanouna est un public que généralement on n'atteint pas autrement. Mmh. Mais sinon, c'est désastreux. Vraiment, c'est désastreux parce qu'effectivement, même si je soutiens pas Jean-Luc Mélenchon sur un certain nombre de choses, notamment sur sa politique internationale, je trouve que la façon dont il mène campagne à côté, ses meetings, quand j'en regarde quelques bouts, c'est de très haut niveau.
Oui,
c'est ce que je dis. Il est venu gâcher tout ce qu'il avait fait.
Ouais,
cette émission a gâché tout ce qu'il avait essayé d'effacer.
Peut-être, mais ce n'est pas les mêmes personnes, si tu veux. Ah, le public d'Aluna est un public spécifique.
Oui.
C'est vrai aussi.
Oui. Mais la question va être de voir ce que ça va donner sur les autres candidats qui viendront débattre, comme Anne Hidalgo. Je dis à Myriam qui dit que je défends Hidalgo. Non, je n'ai pas défendu. J'ai dit ce sera intéressant de voir le score que fera Anne Hidalgo. Et je pense qu'elle n'arrivera pas à mobiliser et à intéresser autant.
Parce qu'il y a aussi des chômages. Elle a fait un gros score, Anne Hidalgo, sur France 2. Hein, non, Valérie.
Pardon ?
Valérie. Oui. Anne Hidalgo a fait un gros score sur France 2. Hein.
Alors, pas quand analyse les courbes, hein. je vous en parlerai.
Je ne suis pas sûr.
Alors, j'ai mal lu, Gilles.
Voilà. Gilles vous fera un débrief.
Mais là, indépendamment des idées, hein, on a deux personnalités avec Mélenchon et Zemmour qui sont des grands habitués des médias, des shows, qui savent très bien manipuler justement les codes de ce genre d'émission, même de divertissement. Anne Hidalgo, on est quand même sur un autre registre. Hein, donc, je ne suis pas certaine que ça fonctionnera, ne serait-ce que pour ces raisons, mais indépendamment des idées politiques.
Il y a une promesse de combat. Quand on a Zemmour face à Mélenchon, on sait qu'on va avoir un spectacle. Oui. Parce que les deux sont...
Si on lui met en face... j'ai oublié ma phrase sur la mairie de Paris.
Rachida Dati,
si on lui met Rachida Dati face à elle, alors là, moi, je regarde.
Moi aussi, beaucoup plus.
On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va revenir sur Marion Maréchal-Le Pen qui dit réfléchir à rejoindre le candidat Éric Zemmour. Elle dit qu'elle ne soutiendra pas sa tante Marine Le Pen. On en parle avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous et l'actualité, c'est également cette déclaration de Marion Maréchal qui dit réfléchir à rejoindre le candidat Éric Zemmour pour l'élection présidentielle, qu'aucune décision n'est prise. La question de son ralliement reste encore en suspens. Je vous propose peut-être de réécouter
Gilbert Collard,
qui est persuadé qu'il annonce
son arrivée.
Je ne sais pas. On va en débattre. Écoutez.
Je suis persuadé que Marion rejoindra et Éric Zemmour. Si je l'ai rejoint, Éric, c'est en grande partie parce que, au-delà de l'amitié que j'ai pour lui, Marion m'a invité à des réunions où il était là, m'a invité à sa fameuse réunion des droites où Éric avait pris la parole. Marion a toujours été aux côtés de Zemmour. Bon, alors, quand on lit l'article du Parisien, il faut se livrer à une exégèse, bien sûr. Hein. Quand on connaît Marion et qu'on lit ce qu'a dit Marion, on comprend qu'il y a une envie d'y aller. Il y a une envie. Quand elle dit « la politique me titille je réfléchis », quand Marion réfléchit très longtemps, c'est qu'elle a pris sa décision.
Le psychologue Gilbert Collard a parlé. La réponse de Marine Le Pen, je vous propose de la réécouter.
Je pense que si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait. Voilà, donc j'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. Donc évidemment, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi.
Vous attendiez à cette décision ?
Non, on s'y attend jamais vraiment. Si vous voulez, je trouve que d'abord c'est une incompréhension politique déjà, parce que elle avait indiqué qu'elle soutiendrait celui qui est le mieux placé. Bon, incontestablement, je suis beaucoup mieux placé aujourd'hui qu'Éric Zemmour, puisque je suis donné au second tour et je crois, compte tenu des sondages de second tour, en capacité de gagner face à Emmanuel Macron. Donc ça, c'est déjà incompréhensible. Mais à côté de l'aspect politique, il y a effectivement l'aspect personnel. Bon, allez, passons à autre chose.
Alors Mathieu Schenk, vous parce que je tout à l'heure je disais on sent une émotion, vous dites tout ça est préparé.
Tout ça est préparé quand elle intervient
Marine Le Pen.
Marine Le Pen, elle doit réfléchir à une stratégie de banalisation et en même temps, elle doit réfléchir pour retourner une difficulté intrinsèque, une Le Pen qui quitterait le camp Le Pen, c'est un signal inquiétant et donc elle décide de tout jouer sur la corde affective. Pour apparaître comme la femme trahie, comme la maman, parce qu'elle explique qu'elle l'a élevée comme la maman qui est poignardée dans le dos par sa propre fille, et donc elle va changer la grille de lecture. C'est pas la campagne de Marine Le Pen qui prend l'eau, c'est une fille qui trahit sa mère.
Vous croyez pas à l'émotion naturelle ?
Je pense que probablement il y a de l'émotion, mais l'émotion elle est mise en retrait. La question qui se pose quand on est avec ses stratèges, c'est comment je fais pour que
et cette première phrase est une punchline, si je vous disais
bien
que
sûr
je
bien
ne
sûr c'est
rien,
une punchline
vous
et ça
pas.
Ne veut pas dire que si elle s'interroge elle-même et on n'est pas dans le cœur des gens. Probablement qu'il y a des sentiments humains, mais ça n'a plus sa place quand on est candidat à la présidentielle.
Ensuite, allez-y.
Il y a un deuxième point qui est extrêmement important de ce qui se joue. Qu'est-ce qui se joue ici ?
Oui,
il se joue l'avenir de la droite et de l'extrême droite. Les zémouristes, ils font un pari. Ils se disent que globalement, Éric Zemmour n'a aucune chance d'être élu président de la République parce qu'il est à 35-36% dans les enquêtes, qu'il est trop clivant. Mais qu'il va jouer un rôle de dynamiteur. Jouer un rôle de dynamiteur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait exploser la droite et l'extrême droite. Ça veut dire que Marine Le Pen est balayée parce qu'elle ne pourra pas faire gagner son camp et que sur les cendres des Républicains, sur les cendres du Front National, les dynamiteurs qui sont du côté de chez Zemmour vont essayer de rassembler une autre droite. C'est exactement ce qu'essaye de jouer aujourd'hui Marion Maréchal Le Pen. Si elle rejoint Zemmour, c'est pas pour aller sur un candidat qui va gagner, c'est pour faire totalement exploser Marine Le Pen, pour l'empêcher d'aller au second tour, ou pour l'empêcher de gagner, parce que si Marine Le Pen fait 48 paires à 48 contre 52 pour Macron, elle peut rejouer pour une nouvelle campagne présidentielle.
C'est vraiment d'exploser, et il pense évidemment à la prochaine élection.
Tout le monde pense à la prochaine échéance.
Jean-Luc.
La longue saga de l'histoire de la famille Le Pen, elle joue bien, Marine, là, c'est vrai, mais... elle a déjà vécu ça. Elle a déjà vécu ça avec son papa. Elle a déjà vécu ça avec sa grande sœur, qui, rappelez-vous, à une époque, soutenait Maigret contre Jean-Marie Le Pen. Donc, ce n'est pas une invention pour elle. C'est bien, ça anime le côté dans l'extrême droite, mais clairement, sa réponse est... Alors là, beaucoup plus calme que la réponse de Jean-Luc Mélenchon face à Éric Zemmour, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est tactiquement bien joué. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que Marion Maréchal Le Pen joue vraiment un rôle dans tout ça ? J'en sais rien, mais ça rentre vraiment. Quelle famille dans la vie politique française, joue un rôle non pas central, mais toujours présent.
Oui. Mais c'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez, ce que disait aussi Mathieu. Il me semble qu'encore une fois, on diabolise Marine Le Pen, on considère d'emblée qu'elle est en train de jouer, qu'elle n'est pas sincère, qu'elle ne dit pas ce qu'elle pense, que c'est une stratégie finement ficelée. C'est l'image qu'on donne d'elle de façon très classique, c'est-à-dire qu'on en fait un petit peu un monstre froid et hyper technique. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi qu'elle peut avoir des sentiments, qu'elle peut se sentir trahie, blessée Eh bien, ouais. Oui, ça peut arriver même à des gens qui s'appellent Le Pen. En tout cas, je suppose que ça peut leur arriver aussi. Et il se pourrait aussi qu'elle puisse être complètement blessée par cette idée-là.
Elle ne pouvait pas réagir autrement. L'agressivité n'aurait pas été de mise, donc l'émotion est la meilleure des réponses.
Bien sûr, mais peut-être que c'est vrai aussi.
Je pense que personne ne peut juger, personne ne peut dire ce qu'il y a dans le cœur des gens. En tout cas, on peut en tout cas regarder quel est l'effet que ça peut avoir d'une stratégie qui est une stratégie voulue, artificielle ou réelle.
Et puis Jean-Luc, vous parliez de la famille Le Pen, mais en fait, on est dans une tradition royaliste de la France. Les rois et les reines n'ont fait que ça, d'être trahis et d'avoir une cour qui les trahissait, qui allait d'un côté ou d'un autre pour essayer d'avoir le trône. Donc,
c'est pour ça que elle s'en tire bien dans la façon dont elle répond, mais je répète, elle a connu ça depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle a démarré en politique.
Ouais, mais politiquement, pourquoi, alors où elle se situe Marion Maréchal, pourquoi elle ne soutient pas Marine Le Pen? Pourquoi
alors, cette politiquement, Marion Maréchal Le Pen, elle est quoi? Elle a retiré Le Pen
de son nom.
Ouais, Marion Maréchal, elle est libérale économiquement. Et elle est très conservatrice sur la question des valeurs. Et elle est, bien sûr, très forte sur le régalien. Mmh. Ce qui la différencie par rapport à Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen est davantage plus sociale dans son approche, notamment sur la question des retraites, sur le rapport à l'économie, et que Marine Le Pen n'est pas aussi conservatrice sur la question des valeurs.
Ça, sur l'avortement, par exemple.
C'est un point de différence entre les deux. Ensuite, d'un point de vue tactique, il y a quelque chose qui se joue. Tout le monde considère que Marine Le Pen va perdre cette élection présidentielle. Il y a des signaux qui, je pense, sont ignorés et qui font qu'aujourd'hui, l'hypothèse de Marine Le Pen, président de la République, n'est pas du tout à balayer. Marine Le Pen, quand elle fait 45-46%, on est plus loin de la marge d'erreur. Ça veut dire que potentiellement, les sondages sont dans la marge d'erreur qui font que, si elle continue à grignoter un point, deux points, elle peut gagner statistiquement. Deuxième élément, bien sûr, tout le monde l'a dit, Éric Zemmour l'a recentré. Troisième élément, elle est en train de gagner la bataille de la compétence perçue. C'est-à-dire que, en qui faites-vous confiance pour résoudre la question de l'immigration ou la question du régalien? C'est Marine Le Pen qui est loin devant. Mais sur la question économique, elle n'est pas perçue comme réellement moins compétente qu'un Emmanuel Macron. Donc, sur la question de la compétence,
elle est en train de récupérer de la crédibilité.
Et après, il y a un dernier point. Et après, j'en finirai là. Pardon, je monopolise la parole.
Non, mais
c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, nous, l'heuristique du premier choix. C'est quoi l'heuristique du premier choix? C'est des gens qui sont convaincus qu'il y a un grand remplacement, qu'il y a un choc des civilisations. Si demain, Éric Zemmour, qui est celui qui a inoculé ce poison, et qui considère que c'est la plus grand défi qu'on a devant nous, même si Éric Zemmour perd, c'est tout un bataillon qui va aller vers Marine Le Pen parce qu'elle est plus proche de ça. Ça fait un réservoir de voix qui est unique pour Marine Le Pen parce que pour la première fois, elle aurait un réservoir pour gagner la présidentielle.
Noémie ?
Non, je rebondissais vraiment, quand vous parlez de poison, comme si c'était Éric Zemmour qui en était responsable, ça me fait un petit peu sourire.
Mais le choc des civilisations,
la situation qu'il décrit, elle existe quand même avant, je pense, qu'il ouvre les yeux sur cette planète et qu'il commence à en parler comme il en parle aujourd'hui.
Je parle juste du poison pour le choc des civilisations.
Indépendamment de Zemmour, la situation est telle qu'elle est, la question de l'identité se pose, même si pour vous, apparemment, c'est superficiel, c'est pas une question importante, c'est une question qui se pose. J'aimerais juste apporter peut-être une information.
J'ai dit que c'est un poison. Oui, parce que pour moi, le choc des civilisations est un poison.
Mais cette question précède Éric Zemmour. C'est ça le problème, d'ailleurs, de ceux qui ne comprennent pas sa popularité. Ce n'est pas Éric Zemmour le problème, c'est ce qu'il dénonce, indépendamment de lui. Mais peut-être pour revenir sur la question dont on est en train de parler maintenant, il y a des informations contradictoires concernant ce ralliement ou non de Marion Maréchal. Hier, je lisais un tweet de Jacques de Guibon, qui est directeur du magazine L'Incorrect, qui est un proche de Marion Maréchal et qui lui disait qu'il n'en était absolument pas question. Donc il y a quand même des informations contradictoires.
Peut-être de l'intox,
oui, c'est possible.
Qui est fait de tous les côtés.
Quand vous disiez l'interview, les choses, il faut lire entre les lignes quand même de ce qu'elle dit. Ça veut dire qu'elle a voulu donner cette interview. Je veux dire que quand vous annoncez que vous n'allez pas soutenir Marine Le Pen, c'est qu'il y a un moment où vous avez une autre intention. La question derrière, c'est vous allez soutenir qui? la question derrière. Si elle ne soutient pas Marine Le Pen, elle va
pas soutenir. Vous pensez qu'elle va aller
jusqu'au bout ? Elle va pas faire l'interview.
Si elle va aller jusqu'au bout,
l'interview, c'est qu'elle a derrière une attention. Si derrière BFM invite Gilbert Collard, j'allais dire Gilbert Collard, comme on a entendu, évidemment, derrière, il y a une stratégie politique. Moi, je vous annonce que ce week-end ou lundi, évidemment qu'elle va y aller. Ou sinon, elle va voter pour qui ?
Bah, elle n'est pas obligée de
voter blanc.
Oui, elle peut voter blanc.
Oui,
elle peut,
on va dire qu'elle est démocrate. Anne Hidalgo.
Le parti animaliste. Oui, non, non. Vous ne croyez pas, Noémie, vous pensez qu'il y a...
C'est pas certain, mais même là, on a écouté Collard et on voit que c'est plus une volonté, un désir.
Volonté, oui.
On sent que pour lui, ça doit être comme
mais
ça.
En même temps, Gilles a raison. Elle a accordé cette interview. On ne la fait pas parler. C'est elle qui
annonce qu'elle
votera pas. Oui, mais il me semble que la décision n'est pas encore prise.
C'est un coup de couteau.
Pourquoi elle parle maintenant ? Pourquoi elle parle maintenant ? C'est qu'on a une étape charnière. Marine Le Pen est en train de reprendre l'ascendant par rapport à Éric Zemmour. Elle essaye de couper les pattes de Marine Le Pen à un moment où elle essaye de progresser. Ça ne peut être perçu que comme ça. Et la parole de Marine Le Pen compte auprès d'un électorat du Front National, qu'on le veuille ou non.
Oui. Ouais, Jean-Luc, sur ces différents scénarios.
Je sais pas, moi, sérieusement, mais vous vous rendez compte qu'on est en train de discuter d'une saga familiale, d'une division dans l'extrême droite, à savoir quel sera celui qui est le plus ou moins fasciste.
Moi, non, c'est pas.
C'est la réalité quand même. La différence aujourd'hui qu'on voit maintenant dans l'opinion publique,
c'est
que Marine Le Pen apparaît d'une extrême droite,
c'est de voir des fascistes partout.
D'une extrême droite douce face à Zemmour qui serait d'une extrême droite dure. Rendez-vous compte de l'état dans lequel on est dans la vie politique française aujourd'hui, avec des gens qui font.
Parce qu'il n'y a personne
si
en face.
Si on additionne les scores,
Jean-Marc,
32-33% des voix.
Jean-Luc, il n'y a personne en face, Jean-Luc.
Oui, et que quand on regarde les sondages, Marine Le Pen est très loin devant ses adversaires.
Oui, aujourd'hui, Marine Le Pen, alors ça dépend des enquêtes, dans celui qui a été sorti par BVA, pour être totalement précis, elle fait 18%, là où aujourd'hui Valérie Pécresse qui est à 16%, Éric Zemmour à 12,5%. Donc oui, il y a un écart important, Marine Le Pen 18%, Éric Zemmour 12,5%, on n'est plus dans la marge d'erreur, là. Elle a repris l'ascendant.
On n'entend pas les autres, on n'entend pas les autres, Jean-Marc.
Jean-Luc, cette campagne pour moi, cette décomposition générale de la vie politique, démocratique et républicaine française, cette campagne va démarrer extrêmement tardivement. C'est en mars, j'invente rien, que on verra réellement quels sont les points qui ont été marqués ou ceux qui n'ont pas été marqués. Quand je vois l'état de la gauche ou des gauches et tout ça, tout le monde voit bien que ça peut pas, c'est pas possible d'avoir un système aussi décalé, d'être aussi décalé par rapport à la vie politique française. Et c'est valable pour la droite française, et c'est valable pour l'extrême droite française.
Oui, mais quand il y aura Macron qui va démarrer en mars, vous verrez, ils n'auront pas beaucoup de place, les gens de gauche.
Parce qu'ils n'ont pas pris le pouvoir.
Ils n'ont pas pris le pouvoir.
Ou avant.
Mais ils n'ont pas de projet politique, de toute façon. Il me semble que la gauche ne réussira pas à se structurer, elle ne réussira pas à incarner un courant, elle ne réussira pas à obtenir ne serait-ce que de sauver sa dignité dans les urnes. Et ça, c'est peut-être aussi justement parce qu'elle n'a pas de projet.
De bien beaux débats en perspective, ça, on peut le dire.
On aura David Pujadas dans l'émission Média lundi. On verra s'il tiendra mieux ses débats.
On lui posera surtout la question de ce qu'il en a pensé. Merci à vous. Très bon week-end. De Sud Radio, très bon week-end à lundi.